Nous prenons la direction de l'Amérique latine, au Mexique plus particulièrement, où Claudia Sheinbaum, une femme politique de gauche, juive de surcroît, a été élue présidente du pays, le Mexique. On en parle avec Noga Tarnopolsky, elle est journaliste et spécialiste de l'Amérique latine. Elle s'exprime au micro de Lucie Gilson.
Bonjour Noga Tarnopolsky.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et spécialiste de l'Amérique latine. Alors, Claudia Sheinbaum, 61 ans, est devenue ce dimanche de juin la première femme élue présidente du Mexique avec 57,8% des voix contre 29,1% pour son rival. C'est une candidate de gauche et elle est juive. Alors, pour commencer, c'est une bonne nouvelle pour les juifs du monde entier, cette élection ?
Je dirais que oui. Elle rejoint Volodymyr Zelensky et Benjamin Netanyahu, je crois que c'est les seuls chefs d'État qui sont juifs. J'ai peut-être raté quelqu'un, mais je crois que le Mexique est un des pays les plus puissants de l'Amérique latine. Alors, c'est important. C'est un pays très catholique et un pays voisin des États-Unis et une des économies les plus importantes du subcontinent. Alors, c'est nettement important pour les juifs aussi.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est un message d'espoir dans cette période troublée pour le peuple juif ?
Sûrement, sûrement. Mais ce n'est pas nécessairement un message d'espoir pour les journalistes et les profs et les intellectuels et les femmes du Mexique qui voient les femmes voient en elles un espoir et en même temps une continuation de la gouvernance de Manuel López Obrador et le président avec une main très forte qui gère le Mexique maintenant, ça fait presque 8 ans. Et Claudia Sheinbaum, qui est physicienne et ex-maire de la ville de Mexique, la ville capitale, était sa candidate choisie. Alors, les forces dans le Mexique, les forces qui sont pro-démocratie, qui voudraient voir un système politique plus libre et moins contrôlé par les intérêts puissants du pays, pour eux, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle.
Pourquoi ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle ?
Parce qu'elle, disons, c'était elle la candidate choisie d'un président qui a... Je recommence. Parce que le choix de Claudia Sheinbaum est simplement le choix de continuer, de laisser le parti de Manuel López Obrador au pouvoir. Elle est vue vraiment comme elle était sa candidate choisie pour être son successeur, et les personnes qui voudraient voir un changement dans la politique domestique du Mexique, par exemple pour les fémicides, par exemple plus de sécurité pour les journalistes, pour eux ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous pensez que cela pourra influencer tout de même la perception des minorités au Mexique ? Parce que Claudia Sheinbaum a été quand même son slogan, c'est les pauvres d'abord. On s'est hérité, vous l'avez dit, du président sortant. Est-ce que ça s'aligne avec les besoins et les attentes des communautés autochtones et marginalisées du Mexique aujourd'hui ?
Ça pourrait l'être. Il faut dire que même qu'elle est très connue... Elle est très connue comme maire de Mexique, mais une personne qui arrive à la présidence et surtout une personne qui est dans sa quarantaine, très jeune, on la connaît pas encore comme présidente. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de forces au Mexique qui craignent vraiment l'avenir de la démocratie au Mexique et des forces libéraux. Mais c'est aussi vrai qu'elle pourrait absolument nous surprendre et devenir une présidente beaucoup plus indépendante et être vraiment un président du changement au Mexique. On ne sait pas, mais Mais pour beaucoup de gens, hier, par exemple, j'ai lu un article par un économiste mexicain qui disait « si elle gagne, c'est la fin de la démocratie mexicaine ». Et c'est parce qu'ils craignent qu'il y aura plus de contrôle économique, moins de contrôle sur la police et tout ça. Mais la réalité est qu'on ne la connaît pas encore comme présidente.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de son élection? Elle aura donc bénéficié du mentorat et du soutien d'Andrés Manuel López Obrador. Vous l'avez dit, c'est l'ancien président mexicain. Donc, ça souligne une certaine continuité, cette élection présidentielle. Mais en quoi cette élection est-elle représentative du paysage politique mexicain? Comment analyser sa victoire aujourd'hui?
Bon, une chose qu'il faut dire, et que je crois qu'il devrait donner de l'espoir au monde entier, c'était que les deux candidates des partis principaux du Mexique, cette fois-ci, étaient des femmes. Alors, en tout cas, on savait qu'une femme allait être élue. Et Claudia Sheinbaum, évidemment, la fille issue d'une famille juive, et l'autre candidate, sa rivale, était issue d'une famille autochtone du Mexique. Alors, absolument, on voit un moment, une jonction historique au Mexique et peut-être en Amérique latine entière où un changement de génération peut vraiment ouvrir les couloirs du pouvoir à des populations qui ont pour le moment été assez marginalisées.
Alors elle sera confrontée
Le Mexique a déjà eu... Ah, excusez-moi.
Pardon. Allez-y, continuez.
Non, je voulais simplement dire que le Mexique a déjà eu un ministre des Affaires étrangères juif, que les Juifs ne sont pas complètement distants du pouvoir au Mexique, mais évidemment, avoir un président, c'est autre chose.
Alors, revenons-en maintenant aux défis auxquels elle va pouvoir être confrontée lors de son mandat. C'est une campagne qui a été marquée par la violence. Une vidéo a même été publiée le 29 mai dernier où l'on peut voir un candidat sur le point de monter sur scène être abattu de plusieurs balles dans la tête. C'est dû à un contexte de l'importance du narcotrafic au Mexique, qui est un gros défi auquel elle va être confrontée. Est-ce qu'elle s'est déjà exprimée sur les mesures qu'elle souhaite prendre pour lutter contre le narcotrafic au Mexique?
Non, elle n'a pas précisé. Et c'est vraiment là, peut-être, son test principal. C'est-à-dire, si elle réussit de garder au moins le contexte civique connu du Mexique, les libertés qui sont déjà en place au Mexique, et en même temps, si elle réussit ce que aucun président avant elle a réussi, et c'est vraiment contrôler le narcotrafic qui est devenu, d'une certaine façon, la police nationale au Mexique, et qui ont... les mafias du narcotrafic au Mexique sont devenues, je dirais, le facteur le plus important inclus dans les relations internationales entre Mexique et États-Unis. Alors, si elle réussit à combattre, à vraiment changer ce statut, je crois qu'elle sera déjà une présidente historique aussi pour cette réussite et pas seulement pour sa personne.
Et enfin, ma dernière question, vous l'avez rapidement évoqué également, un deuxième défi auquel elle pourrait potentiellement être confrontée, c'est le droit des femmes dans un pays où 10 femmes sont tuées chaque jour sous les coups de son conjoint ou caractérisé comme féminicide. Quel impact sa victoire pourrait-elle avoir sur la politique mexicaine sur ce sujet?
Eh bien, de nouveau, il faut dire que nous ne savons pas encore. Elle pourrait être une voix extrêmement importante sur le thème du féminicide pour le continent entier. Elle vient d'arriver à une position d'une immense importance. Mais il faut dire que pour le moment, les forces de l'ordre du Mexique n'ont pas su ou n'ont pas voulu, comme disent les féministes mexicaines, vraiment contrôler cette violence contre les femmes qui forment partie aussi du thème du narcotrafic, parce que une grande partie de la violence des trafiquants vient contre les femmes des rivales entre les différentes mafias du narcotrafic. Alors, tout est connecté et elle a un énorme, énorme défi. Il faut dire que, étant maire du Mexique, son pouvoir était, de la ville de Mexique, son pouvoir était limité, mais elle n'a absolument pas pu contrôler cette explosion de violence contre les femmes.
Eh bien, Noga Tarnopolsky, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste de l'Amérique latine. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.